Merci pour votre fidélité à nos émissions. Bienvenue pour évoquer cette semaine une personnalité importante du début du XXe siècle, l'amiral Antoine Schwerer, né en 1862, décédé en 1936, qui a eu à la fois une carrière de marin dans la marine, il a terminé amiral en 1924, et ensuite une carrière politique, une carrière notamment dans la Ligue d'Action Française jusqu'à son décès en 1936. Et il est intéressant de voir à travers la vie de cet homme l'évolution d'une part de la marine, de l'armée, il a combattu pendant la Première Guerre mondiale, et puis aussi ce bouillonnement politique, intellectuel de l'entre-deux-guerres, surtout des années 1930, dans lequel il a eu un rôle important aussi en rencontrant les grands personnages de l'époque, Léon Daudet, Charles Maurras, Léon Blum également. Donc nous allons voir à travers lui cette tranche d'histoire de la vie militaire et politique française. Pour parler d'Antoine Schwerer, je reçois cette semaine François Schwerer. Bonjour.
Bonjour et merci de me recevoir comme cela.
Eh bien, avec grand plaisir. Alors vous êtes le petit-fils.
L'arrière-petit-fils,
voilà, auquel vous avez consacré une biographie publiée aux éditions de Flore. Vous avez publié précédemment un ouvrage sur la marine française pendant la guerre de 14-18. Et donc, évidemment, à cette occasion, vous étiez intéressé notamment à ce que votre aïeul avait pu faire. Et cet ouvrage permet de compléter ça. Alors, on va suivre sa vie de manière chronologique. Il est né en 1862, donc nous sommes sous le Second Empire. Il mène une carrière militaire, il est né à Lorient. Pourquoi avoir choisi la carrière de la marine? C'est un tropisme familial?
Non, son père avait déjà été officier de marine. S'il est né à Lorient, c'est bien parce que son père était en garnison à Lorient à ce moment-là. Il est le petit-fils d'un émigré, puisque sa famille est originaire de Forêt-Noire. Et son grand-père était venu s'installer à Rennes à l'origine, pour y vendre des horloges. Et c'est l'aîné des fils de cet horloger qui est rentré dans la marine, du reste qui a fait l'école navale à titre d'étranger au début, et qui était devenu de nationalité française, du reste avant son père. Et cet officier de marine qui est mort très jeune, avait donné finalement le goût de la marine à son fils. Il faut dire que lui-même était le fils la première femme de son père, qui elle était déjà veuve d'un officier de marine. C'est une tradition qui vient de la grand-mère de l'amiral Schwerer finalement.
Alors ce qui est intéressant à travers lui, c'est de voir que dans sa carrière, il a vu l'évolution de la marine de manière très importante, notamment l'évolution de l'armement, l'évolution de la force de projection maritime aussi.
Oui, parce que c'est l'époque, j'allais dire, de toute la transformation matérielle, technique de la marine. On est passé de la marine à voile à la marine à vapeur, on est passé des coques en bois aux cuirassés, on est passé des canons le long des coques du navire et qui se chargent par la gueule à des canons qui sont sur des tourelles et qui se chargent par la culasse. Enfin, c'est vraiment la grande transformation de technique qui, du reste, va déstabiliser la marine pendant plusieurs années. Comment utiliser ces nouvelles techniques, revoir la stratégie pour se battre en cas de conflit, etc. Et tout ça, ça se passe dans les années qui vont aller de grosso modo de 1850 à 1900. Pendant ces 50 années-là, c'est une transformation totale de la marine et à laquelle va assister donc ce jeune officier de marine.
Alors il a une carrière qui est très riche, donc il entre à l'école navale et ensuite sa carrière le conduit notamment en Extrême-Orient. Il a participé d'ailleurs au blocus de Formose, Taïwan
oui,
actuellement.
Il a eu beaucoup de chance en début de carrière de participer à l'escadre de l'amiral Courbet, en mer de Chine, où il a énormément appris, tant sur la façon de diriger les hommes que sur le plan technique. Il ne faut pas oublier que l'amiral Courbet, qui était un chef exceptionnel, était à la fois un grand marin, un grand militaire, mais aussi un grand savant et en même temps quelqu'un qui avait un amour des hommes extraordinaire. Et donc tout cela, a été pour lui une école de la vie, au-delà d'une simplement une école de la marine.
Et il a donc une partie de sa carrière qui se déroule en Asie.
Alors, il a fait plusieurs séjours en Asie. Bon, il est allé sur toutes les mers du monde, puisqu'on l'a retrouvé un moment à Terre-Neuve, on l'a retrouvé en Afrique, etc. Mais il a fait deux passages en Asie particulièrement importants. Donc le premier dans le cadre de l'escadre de l'amiral Courbet, et le second une dizaine d'années plus tard, quand avec son transport, la caravane, il est allé combattre les pirates de mer de Chine. Donc, dans les années 1890, 95-94.
Est-ce qu'il participe à l'aventure coloniale, parce qu'il en est aussi contemporain ?
Eh ben, c'est pas véritablement à l'aventure coloniale, c'est plus à la découverte de l'Afrique et aux opérations géographiques, c'est-à-dire qu'il va établir des cartes, en particulier au Sénégal, et il va avoir plusieurs commandements sur les côtes africaines. Cela mènera, du reste, à intervenir. Déjà, à cette époque-là, la marine avait des opérations humanitaires, puisqu'il va transporter un certain nombre de religieuses en Sierra Leone pour aller soigner les malades de la fièvre jaune. Mais surtout en Afrique, sa mission va être essentiellement une mission géographique. Par contre, il connaît bien ces problèmes-là, parce que quand il était à l'observatoire de Montsouris à Paris pour des opérations qui avaient été confiées aux officiers de marine, il avait fait la connaissance d'un explorateur français qui est aujourd'hui peu connu, qui est Louis Mison, qui pourtant avait découvert en particulier toute la vallée du Niger et qui avait collaboré avec Pierre Savorgnan de Brazza. Mais tout ça, ça n'est pas son activité principale, lui.
Il a une activité scientifique qui est assez impressionnante quand on le découvre en lisant votre biographie. Par exemple, on lui a confié une mission sur l'ostréiculture dans le bassin du Morbihan. On le voit.
L'ostréiculture, c'est pratiquement tous les jeunes officiers de marine, tous les ans, faisaient ce genre d'opération. Mais c'est un peu anecdotique.
Et on le voit aussi, donc, où il complète sa formation scientifique, notamment à l'Observatoire de Montsouris. Oui. Et ensuite, il est amené à faire un ouvrage sur le magnétisme, enfin l'électromagnétisme plutôt.
C'est-à-dire que les officiers de marine de cette époque étaient à la fois des marins, mais c'était aussi de grands scientifiques. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il a eu la chance, là aussi, de travailler en particulier avec l'amiral Fleurier, qui était un grand inventeur, et aussi sous les ordres d'un autre amiral important, qui est l'amiral Mouchez, donc à Montsouris. Et ça l'a amené, effectivement, à élargir sa palette dans les connaissances scientifiques, en particulier dans les connaissances astronomiques. Qui ont été pour lui des choses extrêmement importantes. Bon, alors, par la suite, sur le plan scientifique, il a été amené à travailler sur la pose du premier câble sous-marin entre Brest et Boston. Donc tout ça, et qui l'ont amené aussi. À regarder le fond des mers, pas simplement les étoiles, comme on le disait tout à l'heure à Montsouris ou à Terre-Neuve, mais aussi le fond de la mer. Donc finalement, il a eu une carrière militaire comme tous les marins de son époque, hein, quand même. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les officiers de marine étaient tous de grands scientifiques.
Et puis la guerre arrive,
Ouais.
la Première Guerre mondiale. Alors la Première Guerre mondiale n'est pas une guerre maritime à proprement parler, il n'empêche que la marine est quand même mobilisée et qu'il a donc une action notamment sur la marine fluviale en Belgique.
Alors, en réalité, pendant la guerre, au début de la guerre, il est sous-chef d'état-major de la marine, d'état-major général de la marine. Et donc, ça lui donne une vision un peu globale de l'ensemble de la marine, et il collabore en particulier d'abord avec l'amiral Pivet, qui était le chef d'état-major, puis le successeur de l'amiral Pivet, à savoir l'amiral Aubert. Et l'amiral Aubert, comme l'amiral Pivet, ont été chargés de renforcer l'artillerie lourde de l'armée de terre qui était en France un peu inférieure à l'artillerie lourde allemande. Et pour cela, ben, on a pris sur les bâtiments de la Marine nationale un certain nombre de canons et on a essayé de les transporter de façon à les rendre les plus mobiles possibles. D'où la création de ce qu'on a appelé les flottilles de canonnières fluviales. Et comme il a été un peu à la base sur le plan technique de cette mise au point, c'est lui qui a été chargé par le ministre ensuite de diriger les batteries de canonnières fluviales qui ont participé quand même à un certain nombre de grandes batailles, dont en particulier la première opération de Champagne où ils se sont particulièrement distingués.
Alors, il a des fonctions à l'état-major pendant la Première Guerre mondiale.
Oui.
Il est aussi en charge des patrouilles de l'Atlantique et de la Manche.
Oui.
Donc,
Ça, c'est
là où.
successivement tout ça.
Voilà.
Il a commencé sous-chef d'état-major de la marine, puis il a pris en charge les canonnières fluviales. Et là, il y a eu sur le plan politique un remaniement ministériel et le nouveau ministre de la Marine a été l'amiral Lacaze. Or, l'amiral Lacaze était un de ses amis d'enfance qu'il avait connu au lycée de Lorient quand il préparait Naval et qu'il a appelé comme chef de cabinet. Et donc, il est devenu le chef de cabinet du ministre de la Marine pendant une période qui va aller de novembre 1915 jusqu'à août 1917. Et quand l'amiral Lacaze va quitter le ministère de la Marine, l'amiral Scheffer va lui demander de le nommer à un poste exposé, comme il l'a dit, et on va lui confier à ce moment-là les patrouilles de l'Atlantique et de la Manche. Les patrouilles pour lutter contre les sous-marins.
Alors, question un petit peu provocatrice peut-être,
Oui.
mais est-ce que ça a eu un réel intérêt dans cette guerre là? Parce que la première guerre, autant la Deuxième Guerre mondiale, on voit très bien l'aspect maritime, autant la Première Guerre mondiale, on a l'impression que c'est uniquement les combats en Champagne ou dans les Flandres. Quel a été le rôle exact ou le poids exact de la marine dans cette guerre?
Je peux dire qu'il y a eu trois choses sur lesquelles qu'on imagine peu et sur lesquelles il faut insister. Le premier, c'est qu'on avait besoin du ravitaillement venant d'Angleterre, d'Amérique ou d'Afrique, et que les sous-marins allemands avaient fait beaucoup de tort en coulant une partie du commerce naval. Au point même que l'amiral Jellicoe, à un moment, avait pensé que l'amiral Jellicoe, qui commandait la flotte britannique, avait pensé que les Alliés perdraient la guerre du fait de ces attaques des sous-marins allemands. Donc il fallait absolument mettre un terme à ces catastrophes. Le deuxième point, ça a été. On a transporté une partie des troupes qui ont combattu en France d'Afrique du Nord en métropole. Ensuite, on a transporté des troupes de métropole aux Dardanelles, puis à Salonique. Tous ces transports de troupes, il fallait bien les sécuriser, là aussi, et empêcher qu'ils ne soient coulés par les sous-marins allemands. Et puis, dernière chose. Les patrouilles de l'Atlantique et de la Manche ont été particulièrement importantes dans ce genre d'opération, c'est l'arrivée de tous les soldats américains. Les soldats américains qui sont arrivés, il fallait bien là aussi sécuriser le transport de ces troupes américaines. Et là, ça a été le rôle en particulier en France du côté américain de l'amiral Wilson et donc des patrouilleurs de l'amiral Ferrer sous l'autorité du préfet maritime de Brest qui était l'amiral Moreau.
D'accord, donc effectivement, on voit ce rôle qui est majeur. Alors, il termine sa carrière en 1924, donc quelques années après la fin de la guerre. Quel a été son rôle ensuite dans l'adaptation de la marine, enfin je parle entre 1918 et 1924, dans l'adaptation de la marine et la prise en compte des nouveautés de la Première Guerre mondiale?
Il a joué un rôle en particulier dans l'organisation de la défense et l'articulation du rôle de la marine et du rôle de l'armée de terre sur les défenses des côtes, au point que justement il a terminé sa carrière comme le responsable des frontières de l'Atlantique et de la Manche. Ce qui montre bien qu'en réalité c'était l'articulation des deux, savoir jusqu'où le commandement à terre devait donner des instructions à la marine et où jusqu'où la marine pouvait être indépendante des instructions venant de la terre. Je dois dire que ça a été une discussion sur laquelle tout le monde n'était pas d'accord et qui a occupé à la fois les chefs de la marine et les chefs de l'armée de terre.
Alors il prend sa retraite militaire en 1924
24, oui.
et il débute une nouvelle vie, qui est une vie politique.
Alors, c'est déjà assez curieux. En 1924, première chose, il considère qu'il va d'abord un peu se reposer chez lui. Mais il est tout de suite appelé par Léon Daudet, qui est en train de mettre sur pied une liste d'Union nationale pour les élections de 1924. Et là, ça va lui poser un cas de conscience, parce que bon, il connaît pas Léon Daudet, il connaît pas Charles Maurras, il est plutôt, j'allais dire, il lit plutôt Ouest Éclair à l'époque dans la région. Et il va donc interroger tous ses amis qui vont le pousser à aller rejoindre cette liste d'Union nationale. Hein, et donc où il va se retrouver du reste avec aussi un autre personnage qui connaît bien la marine, qui est Charles Le Goffic, qui a beaucoup écrit sur Dixmude, qui connaissait très bien l'amiral Renard. Et donc ils vont participer. Au démarre, c'est une liste d'Union nationale. C'est ouvert à tous. Naturellement, il ne sera pas élu, mais ça, il s'en doutait déjà auparavant. Mais du coup, ça va l'amener à faire la connaissance de Charles Maurras, avec qui, finalement, il va discuter très souvent. Il a été très séduit par Charles Maurras. Et ils vont avoir de très longues discussions pendant tout le reste les 10 ans qui vont venir. Ces discussions, elles sont à la fois politiques et religieuses. Dès avant ce qui va se passer, la condamnation de l'action française en 1926, dès avant, Charles Maurras et l'amiral Ferrer ont des discussions sur le plan religieux. Au point que, il écrira un moment, Charles Maurras est un croyant, il le dit, il le croit. Nous devons donc l'admettre. Mais déjà, lui, il ne croit pas à l'incroyance de Maurras à ce moment-là. Et ils vont avoir de très grandes discussions. Alors, le deuxième problème qu'il agite et ce qui l'avait amené à accepter de se présenter sur la liste d'Union nationale, c'est que si la guerre a été gagnée par les Alliés en 1918, il considère que les Alliés ont perdu la paix. Et que le traité de Versailles conduira inéluctablement à une nouvelle guerre mondiale, que celle-là est inscrite dans les faits sur le plan politique. Il n'a pas c'est-à-dire la connaissance historique que peut avoir Bainville, qui a la même attitude, lui, quand il voit ça, c'est il le regarde sous un angle essentiellement militaire et sur la façon dont il le voit les Allemands et les Américains prendre des décisions politiques.
Pourquoi est-ce qu'il choisit l'action française? Est-ce que c'est par affinité politique réelle? Parce que dans votre ouvrage, vous dites qu'en fait, il n'était pas
Non, pas du tout.
monarchiste
Non, non,
d'origine,
non.
c'est une
Non,
conversion.
non il a bien croisé effectivement quelques officiers de marine avant qui étaient monarchistes, en particulier l'amiral Caillard, mais il n'est pas monarchiste du tout. C'est-à-dire, c'est pas lui, j'allais presque dire, c'est pas lui qui a choisi l'action française, c'est l'action française qui l'a choisi. Finalement, bon, il s'y est trouvé bien. Mais au démarrage, il n'est pas du tout royaliste. Par contre, ce qu'il a vu pendant la guerre ou même avant la guerre, quand il était au moment des discussions sur les problèmes des accidents provoqués par la poudre B, quand il a vu la façon dont certains députés, certains ministres se conduisaient, il a été un peu dégoûté du jeu, c'est-à-dire du jeu démocratique aux politiciens d'un certain nombre de personnes dont il pensait qu'il cherchait plus leur intérêt que l'intérêt du pays. Et il a certainement été sensible dès le début à la critique du fonctionnement du Parlement que présentait l'action française.
Et donc, au cours de cette carrière politique, qui a duré une dizaine d'années, il rencontre beaucoup de monde, parce que lui-même prend la direction de la Ligue d'Action Française.
Ben, il prendra la direction de la Ligue d'Action Française quand Bernard de Vezin l'abandonnera, et un peu à la demande justement de Charles Maurras. En réalité, il a été séduit par l'homme, ça, il n'y a aucun doute, et par sa grande intelligence, sa connaissance du pays, son abnégation. Mais c'est Maurras qui va lui demander de prendre cette direction. Mais au départ, il ne cherchait pas à la prendre. Alors, l'autre aspect des choses qui a aidé l'a conduit à accepter la présidence de la Ligue, c'est que entre les divers dirigeants de l'Action française de l'époque, il était un de ceux qui rassurait mieux la liaison entre toutes les tendances, parce que il y avait quand même un peu de tirage aussi au sein de la direction de l'Action française, faut pas l'oublier.
Et quels sont ses rapports avec des gens comme Léon Daudet, par exemple, ou vous avez cité un petit peu Charles Maurras, mais est-ce que c'est une entente fraternelle, de compagnonnage politique, intellectuel?
J'allais dire, il est à la fois, il trouvait l'homme intéressant et sympathique, et en même temps, n'était pas toujours d'accord avec tout ce qu'il pouvait dire, et surtout tout ce qu'il pouvait écrire. Et il n'avait pas du tout le même tempérament. Mais par contre, bon, les hommes s'appréciaient. De même qu'il n'avait pas le même tempérament que Bainville, ni la même vision sur le plan philosophique et religieux, mais par contre, la puissance intellectuelle et les connaissances historiques de Bainville certainement l'ont beaucoup intéressé.
Alors il y a les événements du 6 février 1934,
oui.
Cette manifestation des associations d'anciens combattants qui dégénère. Est-ce qu'il a participé, lui, à ces manifestations?
Il était très hostile, ces manifestations. Il n'en voulait pas, il l'a écrit à Maurras plusieurs fois, il lui a dit que finalement on ne pouvait pas non plus lancer les gens à l'aventure, mais... dans les choses comme ça. Mais il était président de la Ligue, et à partir du moment où la manifestation a eu lieu, il en a, allez dire, assumé la responsabilité d'un bout à l'autre. Les discussions qui ont eu lieu ensuite dans les enquêtes qui ont été faites sur ce qui s'était passé le 6 février 1934, il a bien expliqué que c'était lui le chef et qu'il en était le bien responsable. C'est-à-dire, il s'est conduit de cette façon-là comme il s'était conduit en tant que chef militaire. les subordonnés agissent, bon, c'est le chef qui en est responsable, même s'ils vont au-delà de ce que de ce que le chef souhaitait. Si le chef n'a pas su canaliser ses troupes, si le chef n'a pas su envoyer ses troupes comme il fallait ou n'a pas su les modérer, eh ben, il faut qu'il s'en prenne à lui-même. Donc il n'y a pas, il y a aucun problème, il assume jusqu'au bout la responsabilité de ce qui s'est passé le 6 février 1934.
Il y a un discours que vous citez de lui qui date de 1934, justement, où il parle de Hitler. Je cite juste le début. Chose singulière, il y a des gens qui se disent et se croient républicains et qui sont aujourd'hui pleins d'admiration pour Hitler, pour ce tyran sanguinaire, qui, jugeant que certains de ses meilleurs amis devenaient menaçants pour son pouvoir, a trouvé un moyen simple de s'en débarrasser, les tuer. Bon, etc. Il poursuit ensuite. Ce qui est intéressant, c'est la mention de tyran sanguinaire pour Hitler, parce que nous sommes en 1934, donc ça fait quelques mois qu'il est au pouvoir, et on est encore très très loin, non seulement des crimes de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de la répression de la fin des années 1930. Donc c'est-à-dire qu'il avait vu, dès les premiers mois du gouvernement de Hitler, les dangers que celui-ci représentait.
Quelques mois auparavant, il avait même écrit aussi « Si Hitler succombe, l'Allemagne retombera dans le chaos d'où il avait essayé de l'en sortir. S'il résiste, il pensera vite aux moyens de retrouver sa popularité, se jeter sur nous. » Pour lui, donc, il pensait toujours, et depuis le début, que l'Allemagne cherchait sa revanche. Mais dès qu'il a vu la personnalité d'Hitler percer sur le plan politique, il a compris que celui-ci représentait un danger très grave pour la France d'une part, mais pour le monde en entier aussi. Et il a écrit plusieurs articles contre Hitler dans l'Action française de l'époque, parce que justement pour lui, il considérait que c'était le personnage le plus dangereux du mouvement.
Mais comme quoi, il était d'une grande lucidité.
Oui, il n'a pas connu, puisqu'il est mort en 1936, oui. Il n'a pas connu ce qui s'est passé par la suite.
Merci beaucoup, François Schwerer, d'avoir évoqué cette. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Antoine Schwerer, de la royauté à la monarchie, qui est paru aux éditions de Flore.